Les cerisiers plient sous le poids de leurs fleurs. Ils exécutent une danse à laquelle personne n'a jamais été invité. Ce soir, nous avons la chance d'avoir comme invité Etel Adnan. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Bachar Mar Khalife, Lemon.
طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيحجره
Vous êtes née au Liban, est-elle?
Oui, je suis née au Liban il y a bien, bien longtemps.
Combien de temps?
Je suis née en 1925. Ça nous ramène bien loin. Et aussi, j'ai beaucoup voyagé, donc les choses se mélangent un peu. Mais le Liban m'est présent parce que j'y allais souvent. Et aussi, ils s'arrangent pour avoir toujours des problèmes. Ça fait que on n'a pas l'occasion de ne pas y penser. C'est toujours dans les nouvelles.
Alors, vous avez eu effectivement une vie très aventureuse, puisque vous êtes parti enseigner aux États-Unis, que vous y avez vécu très longtemps. Cet entretien se passe dans votre appartement à Paris,
oui,
où vous habitez désormais. Vous êtes à la fois peintre, dessinatrice, poète, écrivaine.
C'est ça, entre l'écriture et la peinture.
Et la poésie.
Et la poésie.
Et tout ça est indissolublement lié. Et je crois que c'est lié depuis l'enfance au Liban. Parce que vous avez été éduquée où et par qui au Liban?
Oui. Dès l'enfance, j'ai été dans un monde multiple. J'avais une mère grecque de Smyrne, un père damascain mais officier d'Empire ottoman. On voit.
On le voit là. Oui, il est beau votre papa. Hein,
oui, il était camarade de classe d'Atatürk et il a participé à la Première Guerre mondiale. Donc nous avons parlé grec et turc à la maison. Mon père n'a pas parlé grec. Ma mère me parlait à moi, tout naturellement. Parce que c'était vraiment la langue qu'elle connaissait le mieux. Elle connaissait un peu de français. Elle a appris le turc en étant née là-bas. Il y avait deux religions à la maison. Mon père était musulman, ma mère était grecque orthodoxe. Et c'est un bien, je trouve, que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai grandi en considérant le monde comme étant peuplé de personnes différentes. Je trouve que c'est un plus parce que c'était naturel, c'était pas une réflexion. On s'attendait même à ce que tout à coup quelqu'un arrive qui n'était pas totalement comme ce qu'on connaissait déjà. C'était un lieu de passage aussi, l'Orient de cette époque. C'était la fin d'un empire, de changement de population. Et l'école était française. J'ai donc été à l'école religieuse des Bonnes Sœurs. Elles étaient de France, c'était pas des religieuses locales. Et l'éducation était très stricte. Donc, au point de vue éducation formelle, ce sont de très bonnes écoles. Mais elles étaient aussi, elles sont peut-être toujours un peu, très étroites. C'est-à-dire, on me disait plusieurs fois, pauvre petite Ethel, tout est bien, mais son père est musulman. On nous disait que les musulmans n'allaient pas au paradis. Alors, j'ai appris à me poser des questions. Parce que il y avait un son de cloche à la maison. C'était le monde grec, tout était mieux à Smyrne. On allait à Damas chez ma tante, j'étais enfant unique. On allait à Damas, là-bas c'était encore la fin de l'Empire ottoman. C'était un autre monde, la fin d'un monde. Et à Beyrouth même, il y avait le quartier cosmopolite où j'habitais, le quartier plus uniquement chrétien. De l'autre côté du boulevard, on n'y allait pas. On n'y allait pas parce qu'on n'avait rien à faire. Il y avait deux, trois lignes de tramway et on allait à pied. Il y avait trois taxis, on les montrait du doigt. Donc, je considère tout ça un monde poétique. Parce que innocent, tout était sur le mode mineur. Il n'y avait pas de pollution. On sortait de la grande guerre, ça prend des années. On ne savait pas où le monde allait, on ne pensait même pas qu'il allait quelque part. On vivait au jour le jour. On connaissait ses voisins immédiats. C'est un monde idyllique, mais c'est vrai. Et j'étais la première génération des enfants qui allaient nager. Ce qu'on appelle la libération des femmes est une chose très intéressante. parce que c'est le résultat comme de petits sauts, comme si vous sautez de quelques mètres à la fois. Tout à coup, il y avait une dizaine de petites filles qui allaient nager, pas plus. Donc, tout à coup, on voyait des femmes manger de la glace chez le marchand de glace. C'est comme ça que ça a eu lieu. Vous voyez, par petites étapes. Et elles étaient très évidentes. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents étaient fauchés. Et à 16 ans, j'étais travailler. J'ai fait mes deux bachots en travaillant au bio. La seule personne en ville à qui ça a été possible. Certaines heures à l'école, d'autres des leçons privées, etc. Et là, le travail est vraiment une énorme découverte. Et surtout aux époques où les femmes étaient encore à la maison, le monde du travail, c'est vraiment une deuxième naissance. C'est un autre monde. D'abord, vous voyez des gens qui ne sont pas les amis de vos parents. Vous êtes fille, vous parlez aux garçons. Vous gagnez de l'argent, bien que ma mère me le prenait parce que les filles donnaient leur argent à la maison. Vous vous rendez compte, tout ça dans ma propre vie. C'est un réservoir de poésie extraordinaire.
Alors, ce qui est incroyable chez vous, Étalanan, c'est votre sentiment que la beauté du monde existe.
Oui.
Et d'ailleurs, vous allez la célébrer durant toute votre existence.
C'est vrai.
À la fois par la poésie, par la peinture, par la calligraphie. Et je crois que quand vous étiez petite, vos parents vous mettaient dans un jardin et vous parliez aux fleurs,
oui,
c'est vrai,
oui,
ça?
Oui, parce que la première maison, nous avions, mes parents ont dû louer une grande maison. Je me souviens, ma mère me disait, tu vas t'asseoir sur le tabouret et tu vas pas bouger. Donc, j'étais assise là une heure ou deux. Comme j'avais ni frère ni sœur, je parlais, je communiquais avec le jardin. Il y avait aussi un chat qui était son chat, c'était ni le mien. La maison était sa maison. Les femmes grecques, la maison, c'est à elles, ce n'est pas à la famille, c'est aux femmes. Et même les pères se saignent pour leur acheter une maison. Ils ne peuvent pas acheter une maison, ils achètent une armoire. Vous voyez, il faut donner à la fille une base, c'est plus qu'un objet. Donc on était chez elle. Ça m'a beaucoup marqué, ça fait que j'ai passé ma vie dehors, dans les cafés, dans les voyages. Je n'ai jamais totalement chez moi dans un endroit clos. Parce qu'on a grandi comme ça. Ne bougez pas, ne touchez pas, on fait le ménage.
Et que disiez-vous aux fleurs alors?
Allez, aux fleurs, je crois que les bonnes sœurs nous parlaient de miracles. L'éducation qu'on a, c'est une espèce d'irrationnel, tantôt charmant, tantôt effrayant. On nous parlait de choses constamment invisibles. Le paradis, les saints, les péchés, on ne faisait pas de péchés. On disait qu'on en faisait même quand on dormait. Ça vous prépare à un monde un peu surréaliste facilement. Et je crois que j'étais là rêvant, que je faisais des miracles, lesquels, je ne sais pas, que je donnais des pouvoirs aux fleurs, qu'elles allaient tout à coup me répondre. Maintenant, être enfant unique, c'est presque la règle. Dans ma génération, à l'école, j'étais la seule petite fille qui n'avait ni frère ni sœur. Donc, je regardais le monde. Le monde me tenait compagnie. J'observais. Je voulais marcher sur mon ombre. Quand on rentrait de la plage à la maison, le soleil était tel que l'ombre était devant moi et je voulais marcher dessus. Ça, ça peut être un poème en soi. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Observer le monde, c'est de la poésie. Le monde est passionnant. Et quand on n'a pas trop d'enfants, on s'adresse, on regarde plus autour de soi.
Alors, je vais vous citer un des poèmes, est tel « La lune s'obscurcit à l'aube, la montagne frissonne d'anticipation et l'océan se dédouble. Le bleu de sa surface au bleu des fleurs se mêle dans les sillages horizontaux. Une brise témoigne de cette heure. » C'est un poème, mais ça pourrait être aussi un tableau.
Oui.
Comment les mots et les couleurs se sont assemblés chez vous pour que vous deveniez aussi bien peintre que poète?
Le hasard joue un rôle énorme dans nos vies. Vous tournez à droite au lieu de tourner à gauche et vous ne savez pas ce que votre vie allait être. J'ai été professeur de philosophie de l'art, donc la personne en charge du département d'art m'a dit comment vous enseignez la philosophie de l'art et vous dites que vous n'êtes pas peintre. Et elle m'a dit, venez, venez. Et elle m'a donné des crayons qu'on a ramassés par terre, des bouts de papier. C'était très sage. Elle m'a pas fait peur avec des toiles bien montées. Et puis elle m'a dit, au bout de quelques mois, m'a dit, vous savez, votre esprit est formé, vous n'avez pas besoin de cours, vous n'avez qu'à continuer. Entre-temps, j'avais déménagé en Californie. Je connaissais l'anglais, mais c'était minime. J'ai trouvé de l'intérêt à cet effet immédiat. C'est une espèce de repos profond, la peinture, par rapport à l'écriture. C'est vraiment émotionnellement un autre monde. C'est la même personne, donc c'est la même sensibilité. Et on retrouve la sensibilité de Michaud dans ses dessins. Il y a la même angoisse, le même monde. Mais le fait de dessiner est vraiment très contraire. Dessiner, c'est un peu comme un sport. Le corps participe plus. Écrire est très tendu. C'est insupportable. D'ailleurs, tous les écrivains qui vont chez les kinésies, ils ont des crampes. C'est un métier physiquement très dur. Alors que peindre, vous bougez, vous cherchez votre tube, vous faites un geste. Le geste est très important. Donc, c'est un monde qui libère plus. Et puis, il y a une joie qui vous revient immédiatement. Vous faites un tableau, vous pouvez mettre quelques heures, c'est fait. C'est la même personne, mais ce n'est pas le même aspect de la personne.
Alors, est-elle, Adnan, vous n'êtes pas une femme du repentir. C'est-à-dire, vous ne revenez pas sur vos tableaux pour retravailler. Quand vous commencez à travailler sur une toile, vous la terminez. Vous la commencez, vous la terminez. Oui. On vous a d'abord connue et reconnue comme poète, comme écrivaine, à travers de nombreux livres. Et puis ensuite, vous êtes partie aux États-Unis. Mais avant de partir aux États-Unis, vous avez quitté le Liban, car vous avez une vie très aventureuse, pour aller à Paris suivre des études. Et quand vous avez suivi des études, eh bien vous êtes allé à la Sorbonne pour étudier la philosophie. Vous avez eu comme professeur notamment Gaston Bachelard. Je vous propose d'écouter Gaston Bachelard qui va parler du songe, le songe qui vient avant la pensée dans l'expérience poétique. C'est une archivina du 19 janvier 1954 dans l'émission Dormeur éveillé.
La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des formes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être diurne.
Que vous a apporté Gaston Bachelard ?
Le fait que la philosophie n'était pas une coupure de la vie quotidienne et que la vie quotidienne était poésie. Ça, c'est très important. Nous croyons que nous le devons à la pensée anglo-saxonne plus tard, et on ne connaît pas assez l'originalité, la liberté de pensée de Gaston Bachelard. Il était très lu. Il y avait même un culte, les étudiants faisaient la queue. Mais malgré ça, j'ai l'impression que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas situé Bachelard, son importance dans la pensée française. Je trouve que son écriture est aussi extraordinaire que les manifestes du surréalisme. Je les mettrai à ce niveau et dans ce monde. Même le surréalisme, c'est de la haute philosophie, mais c'est une philosophie en avance sur ce que les gens croyaient que la philosophie était. Par exemple, Heidegger a dit « L'aboutissement de la philosophie, c'est la poésie ». Bien, le surréalisme l'a dit avant, Bachelard l'a dit avant. Bachelard a libéré, a dépoussiéré l'image qu'on avait de la philosophie comme d'une chose détachée du monde. Des gens comme Bachelard ont redécouvert que dans chaque minute, nous sommes la totalité de notre vie et la totalité du monde. C'est facile à dire, mais c'est très juste. Vous voyez, nous sommes chaque seconde la résultante de notre vie, notre environnement, de l'histoire du monde. Pour moi, Bachelard est un esprit exceptionnel dans la pensée française contemporaine. On parle beaucoup de Deleuze, des gens qui ont voulu un peu élargir le champ de la philosophie. Il l'a fait tout naturellement.
Et l'expérience du songe, qui était très importante, et du rêve, qui était très importante dans l'œuvre philosophique, mais aussi poétique de Bachelard, est-ce que pour vous, le songe, le rêve est important pour votre démarche artistique ?
Il y a un état du rêve. Quand on rêve, on sait rarement qu'on rêve. Mais quand on se réveille, on voit, on porte en soi presque une température du rêve, comme une chaleur du rêve. Par rêve, il veut dire presque une pré-pensée. Parfois, il y a un halo autour de la pensée. Il y a une surface de la pensée. Il y a un petit monde. Et c'est très intéressant, pas seulement le rêve comme expérience, qui est intéressant parce que c'est une fenêtre, le rêve. Comme si le monde n'était pas assez grand, il y a aussi des ouvertures sur d'autres mondes. Parfois, quand j'avais des cauchemars, je me disais, mais c'est moi qui fabrique ces cauchemars. Pourquoi est-ce qu'on se fait ce mal ? Mais aussi, on fabrique des expériences, de vraies expériences, comme de survoler. On a l'impression d'avoir survolé très souvent, comme nager au-dessus, pas dans la rivière, mais parallèle au-dessus. C'est quand même des expériences qu'on n'a pas physiquement impossibles dans l'état de veille. Le fait de rêver en lui-même est impressionnant.
Et créer, c'est ne pas penser, enfin, c'est abandonner la pensée quelque part et s'abandonner à l'imaginaire, pour vous, était là-dedans?
C'est-à-dire, créer est une forme de pensée, c'est abandonner un certain monde de préoccupations pour entrer dans le nôtre. J'aime bien aussi le mot faire. Le mot créer me rappelle trop les religions. Je ne sais pas pourquoi. On a séparé les créateurs des non-créateurs. Et tout le monde crée dans ce sens-là. Tout le monde fait des choses qui sont parentes au monde de l'art, de la philosophie. Il n'y a pas de coupure absolue. Il y a des intensités différentes. Mais maintenant, je suis étonnée par des questions métaphysiques que les enfants posent. Ils ont une liberté telle que ils arrivent à vous surprendre et à avoir des remarques. Maintenant, on ne les copie pas, on ne les publie pas, heureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là des moments de haute pensée, comme ça, des fulgurations. Dernièrement, je suis arrivée à la conclusion que tout pense à ce niveau. Qu'est-ce qu'on appelle penser? Je ne sais pas, mais c'est un sentiment que parfois la vie est la vie. Donc, si un objet existe, c'est qu'il est vivant. Autrement, il ne serait pas là. Donc, la vie et la pensée, ça va ensemble. Il y a tout un mystère. C'est un sentiment parfois que les animaux pensent. On dit qu'ils ne pensent pas. On parlait de l'école où j'ai été, mais même Descartes a dit que les animaux sont des machines. C'est pas... Les animaux pensent, ils prennent des décisions. Un chat, avant de sauter, regarde, évalue la distance. Tu ne jettes pas comme ça, les yeux fermés, non, dans le vide. Entre un grand morceau de viande et un petit, un chien préfère le gros morceau. Il fait donc des comparaisons. C'est pas parce qu'il pense pas exactement comme nous qu'il ne pense pas. Tout ce qui est vivant, dans ce sens-là, pense.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Etel Adnan, Mounir Bachir, le Oud fou. Merci pour ce choix, Ethel, et pourquoi ?
D'abord parce que mon père était éduqué, il a fait une école de guerre, mais il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de suivi dans les maisons. Et nous avions un phonographe avec peut-être une dizaine de disques au grand maximum, des chansons grecques pour ma mère et des taksims, des ouds, de la musique turque, arabe, c'est pareil. Avec des petites variantes, mais c'est le même, la même approche à la musique dans le Moyen-Orient jusqu'au nord de l'Inde. Le même sentiment, les mêmes principes, le même monde musical. Et je n'ai plus entendu depuis. C'est vraiment à Paris où j'ai été à des concerts et en Amérique. Et quand je suis revenue à Beyrouth, parce que je revenais les étés, c'est-à-dire début des années 60, à ce moment-là, j'ai connu Mounir Bachir. C'est un Irakien qui était en charge de l'Institut de musique arabe traditionnelle à Bagdad. Il jouait le oud merveilleusement. J'aime sa musique.
Alors, et tout ça n'explique pas, Ethel Adnan, pourquoi et comment vous avez quitté l'Europe pour aller enseigner l'histoire de l'art aux États-Unis.
Oui.
Il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes professeurs à l'époque où vous avez commencé.
Non, d'abord, mais à l'époque, j'ai été comme étudiante à Berkeley et j'ai enseigné dans un college. Mais vous avez raison. Jusqu'en 1960, c'est pas si loin, l'université de Berkeley n'embauchait pas de femmes professeurs. Et il y avait une collègue à moi qui a été pour s'inscrire au département d'histoire. Et le professeur lui a dit « Pourquoi voulez-vous faire un doctorat ? Parce qu'on va jamais vous embaucher. » Et femmes allaient à l'université, mais n'étaient pas professeurs. Quand j'étais à Harvard en 1957-58, j'ai fait un an, nous étions deux femmes dans tout le département de philo. Et quand nous posions une question, il y Il y avait un silence absolu. Les jeunes élèves venaient de dire « qu'est-ce que vous faites là ?» On nous a tolérés, on nous a pas dérangés, mais on était là. On n'était pas invités à participer. C'est pour vous dire à quel point on n'était pas là.
Mais vous avez été tout de même accepté comme professeur.
Dans un collège, oui, dans un
niveau. Mais pas à la vraie université.
Non, pas dans les grandes universités. Et puis ça a dû commencer. Par exemple, la première femme professeure à Berkeley, elle vit toujours, Laura Nader, la sœur de Ralph Nader. Ils sont d'origine libanaise, leurs parents sont venus. Elle a été embauchée en anthropologie. Non, il y avait des femmes, il y avait des étudiants. Il y a des départements, il y en avait moins, mais il y en avait autrement. On n'aurait pas eu des femmes écrivaines, des femmes médecins, des femmes... Non, c'était pas encouragé et de grandes institutions n'aimaient pas les embaucher. C'était vraiment l'exception. Il y a eu des femmes comme Margaret Mead, comme Ruth Benedict, mais on les compte, preuve qu'on cherche leur nom. On va pas les chercher le nom des hommes qui enseignaient dans ces universités. Ça allait de soi, vous voyez. Ça a été une lutte constante. C'est un défi qui a aussi attiré les femmes très intéressantes. Quand elles ont percé, elles ont vraiment percé. Parce que déjà, il fallait un certain courage ou une certaine inconscience. Moi, j'avais les deux. Je me jetais dans des choses sans trop réfléchir. Il y a une grande part d'innocence qui aide beaucoup dans la vie. Parce qu'on prend des risques sans savoir que c'est un risque. À cause des années de ma naissance, j'étais une des premières filles qui a travaillé dans un bureau à Beyrouth. Moi, j'ai été en Amérique pour livrer par hasard. J'ai habité le pavillon américain à la Cité.
Et puis, vous avez découvert, est-elle là-dedans, dans ce nouveau continent, des nouvelles lumières, beaucoup. Une beauté de la nature.
Beaucoup.
Vous disiez en début d'émission que vous saviez parler aux fleurs et ce, depuis l'enfance. Mais aux États-Unis, vous avez appris à parler
aux montagnes.
Alors, vous avez écrit un livre très beau sur cette expérience qui s'appelle « Voyage au mont Tamalpais ».
Ouais.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous parlez aux montagnes ?
L'Amérique, c'est pas un pays, c'est un monde, c'est énorme. Et historiquement, il y a une énergie incroyable qui s'est déchaînée. Et il y a du meilleur au pire. C'est un pays où les gens se sont refait une vie. Il y a un sentiment de liberté, que tout est possible. C'est pas faux. Qu'on peut improviser sa vie, qu'on peut le matin faire ses bagages, aller dans la ville à côté, recommencer. Il y a aussi le génocide des Indiens, le problème des Noirs, la bombe atomique. C'est un monde où il y a tout. Et moi, j'aime l'Amérique d'une façon lucide. Je vois tout ça. Une fois que je vois tout ça, je continue à dire que dans mon cas et dans le cas de millions de gens, ça a été une libération, un monde nouveau. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour tout le monde et qu'il n'y a pas un prix à payer. Je préfère le dire parce qu'autrement, on est un peu mal à l'aise. En France, malheureusement, les gens qui viennent étudier ne connaissent pas le côté nature de l'Europe. Ils sont toujours dans des villes. Alors qu'en Amérique, la nature est même dans la ville. Ici, c'est rare que l'étranger aille voir les Alpes ou le Rhône. Là, il y a une grande beauté en Europe. Mais c'est quand même moins sauvage que l'Amérique. C'est domestiqué. domptée. En Amérique, la nature est violente et présente partout. Vous êtes jamais hors de la nature. Et j'ai découvert la nature en big scale, à une échelle qui n'était pas les 100 kilomètres entre Beyrouth et Damas. Pour moi, l'aventure, c'était le petit train qui mettait 12 heures de Beyrouth à Damas. 12 heures pour 100 kilomètres. Alors, vous venez d'un monde pareil. En France, vous ne voyez que Paris, c'est déjà énorme. Et là-bas, partout où vous êtes dans une nature extraordinaire. Comment ne pas l'absorber? Et j'ai découvert, c'est pas découvrir, des choses arrivent. Je sais pas pourquoi, mais le fait que autour de Berkeley, quand j'étais professeur, il y a cette montagne, le mont, qui fait 1000 mètres, mais qui s'étale, qui a une beauté extraordinaire, ça m'a obsédée. C'est devenu, c'est pas une obsession, c'est devenu ma référence. Je ne me sentais pas seule dès que je la voyais. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas des amis. Ma meilleure amie, c'était la montagne. Elle m'a absorbée, elle s'est imposée. Elle était d'une beauté, elle est, qui fait que je l'observais sans arrêt. Elle était là, c'était ma compagnie. C'est l'objet qui m'a tenu compagnie, comme quelqu'un. Ça arrive, vous voyez.
Depuis Ethel, vous avez peint beaucoup de montagnes, ce qui est extraordinaire en dehors de la très grande poésie que vous manifestez dans vos différentes disciplines artistiques, le dessin, la peinture, l'écriture, la poésie. C'est l'intensité du présent. C'est aussi que vous avez mené parallèlement une vie de professeur, d'écrivaine et aussi de peintre pendant des décennies.
Oui.
Vous montriez vos tableaux dans une petite galerie d'une de vos copines. Vous étiez considérée par quelques amis,
oui,
qui en achetaient un petit peu. Et puis tout d'un coup, il y a une dizaine d'années, même pas, tout d'un coup, cote internationale, vos tableaux sont vendus dans le monde entier, ils coûtent des fortunes. Oui. Donc la célébrité, vous est arrivée, boum, comme ça.
D'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce que ça m'a fait d'être célèbre. Et je me suis entendue dire, heureusement que c'est pas arrivé plus tôt. Parce que j'ai mené une vie tranquille. Par tranquille veut dire, j'ai suivi ce qui m'intéressait, sans pression, sans obligation, parce que le succès crée des obligations, vous enferme. Je n'ai pas eu cette expérience. De nouveau, c'est un hasard. J'avais une exposition à Beyrouth un an avant la Documenta 2012. C'était numéro 13, je crois. Donc en 2011, j'avais une exposition dans une nouvelle grande galerie. C'était pas la petite galerie où j'exposais une fois tous les 10 ans. Mais je travaillais. Je peignais quand je voulais, j'écrivais. Je gérais tout ça. La personne qui était en charge de la Documenta, Caroline Chestov-Bergay, est une femme remarquable. Elle est directrice maintenant du musée de Turin. Elle est venue à Beyrouth, elle a vu ma peinture. Elle m'a dit, voulez-vous déjeuner avec moi demain matin dans tel hôtel? J'ai dit bon. J'ai été à 9h du matin et au bout de 20 minutes, elle me dit, je vous invite à la Documenta. Alors, je suis tombée des nues. Elle m'a dit, au bout de quelques minutes, elle m'a dit, mais vous ne voulez pas? J'étais très étonnée.
Il faut dire que la Documenta, c'est la plus grande foire d'art contemporain dans le monde.
Dans le monde. Et c'est vraiment tous les 5 ans. Heureusement, ce n'est pas chaque année. Et c'est vraiment là où les personnes en charge se démènent pour que ce soit exceptionnel.
Et pour trouver des nouveaux talents, comme vous.
Et trouver des nouvelles personnes. Et puis, il faut dire, il y avait dans ces documents-là, surtout, peu de peintres qui travaillent à l'huile ou à l'acrylique. Il y avait beaucoup ce qu'on appelle des assemblages, des représentations, mais il y avait très peu ce qu'on appelait peinture traditionnelle, du moins dans le format. Il y avait une Éthiopienne d'Amérique, Meritu, les deux est très célèbre. Il y avait un Américain, je crois, Bradley, qui a fait un immense avion, mais peint à la main, qui faisait 20 mètres de long, et une énorme salle où on a mis toutes mes petites peintures. Et il s'est trouvé que ces petites peintures ont tenu. Ça a dû frapper les gens. Il y avait une tension dans chacune qui a fait que ça ne faisait pas petit. Ça a attiré l'attention. Et il ne faut pas oublier que la peinture, contrairement à la poésie, est un marché. C'est des objets qu'on vend. Donc, les galeries cherchent des nouvelles personnes qu'on peut, entre guillemets, lancer. Maintenant, il y a des gens qui critiquent. Moi, je trouve que s'il n'y a pas de galerie, à la longue, les gens se découragent, beaucoup ne travaillent plus, et vous n'avez pas un livre, se transporte différemment pour les galeries, vu que la peinture n'est plus une affaire de noblesse et de murs et de fresques. Elle s'est embourgeoisée, c'est-à-dire son public est bourgeois. Il faut bien un intermédiaire qui est la galerie. Mais c'est aussi une grosse affaire. Là où il y a des problèmes, pas des problèmes, mais vous sentez le pressure. J'ai arrêté, ça fait déjà un an où je travaille beaucoup moins, parce que j'ai trop travaillé pendant 3-4 ans. J'étais dans un tourbillon, parce que j'avais 4 galeries, alors chacun surveille les 3 autres. Comment tu as donné des tableaux à l'un et pas à moi? Comment tu as fait ceci et pas à moi? Donc, il fallait égaliser les choses. Et puis, dernièrement, j'ai continué à travailler. Je viens d'avoir une exposition, mais c'est quand même beaucoup moins. C'est ma fatigue, c'est l'âge. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler à mon âge. 93 ans, c'est énorme. Et je le sens, je marche avec difficulté, mais ça ne me fatigue pas de peindre. Ça me repose parfois. Ça m'est plus fatigant d'écrire. Et le pire, c'est de répondre aux emails. Parce que les emails viennent de partout, comme vous savez, dans le monde. Ça fait que votre esprit va dans tous les sens. Au bout du 4e, c'est juste ma journée est faite. Vous écrivez à New York, vous écrivez à Paris, vous écrivez je ne sais plus où. C'est terrifiant comme fatigue. Je préfère faire un tableau que répondre à 2 emails, ça me fatigue plus.
Ben merci infiniment, Estelle Adnan. Et on va terminer cette émission par un très court poème. Une rose noire pousse au cœur de mon cœur. Son parfum me fait dormir plus longtemps.
Je vais marcher très longtemps, mais je m'en vais trouver les points qui redescendent. Je vais toujours au devant. fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais